la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Une émission consacrée à l'entrée au Panthéon de Misak Manoukian, accompagné de son épouse Mélinée Manoukian. Cela a eu lieu le 21 février. Il y avait eu énormément de manifestations en France et nous allons parler plus spécialement de Nîmes et plus spécialement avec Denis Lannoy qui est le porte-parole de tout ce collectif. Car au-delà d'une journée, il faut réfléchir bien sûr aux impacts en fait sociologiques et comme un avertissement, comme un symbole. Et donc nous allons d'abord écouter Muriel Blacher qui s'est très investie et qui nous parle de ce collectif, et ensuite nous reviendrons à Denis Lannoy pour approfondir, je dirais, le sujet. Mais il y a eu énormément de spécialistes qui sont venus lors de ces manifestations. Muriel Blacher, vous avez été très active dans ce collectif, donc on insiste bien sûr, comme toujours, sur le travail collectif. Comment ça s'est organisé pour cet hommage aux Manoukian ?
Alors en fait, on a eu une première réunion dans laquelle je me suis portée volontaire. Et en fait, au sein du Parti communiste de la Fédération du Gard, je m'occupe de la communication et je fais, grosso modo, un certain nombre de maquettes, de documents, etc. etc. Et moi, ça me touche particulièrement, en fait, même si je fais surtout cette histoire me touche particulièrement parce que je pense que... Ben parce que c'est la défense aussi, en effet, de l'étranger, de l'immigré. C'est aussi la défense de... c'est aussi se battre contre l'antisémitisme
et la xénophobie.
Et cette histoire est tellement importante et a été une histoire collective parce qu'en effet, on célèbre Misak Manoukian et Mélinée parce que Mélinée, en fait... Elle a été aussi résistante, elle a vécu après...
Oui, elle est décédée en 1989, voilà, elle a été la biographe de son mari.
La biographe de son mari, pour moi, il représente, en fait, à titre personnel, pour moi, il représente l'ensemble des résistants qui se sont engagés, impliqués. Il représente aussi, parce qu'on dit les 22, 1923, puisque Olga Banchik a été guillotinée, en fait, après...
En Allemagne.
Et je pense que ça représente aussi, il représente symboliquement une histoire d'engagement,
de résistance,
l'engagement politique.
Ils sont un symbole vraiment de courage.
Ils sont un symbole de courage, de résistance jusqu'à la mort. Et en fait, moi, des fois, je me pose aussi la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi, en fait ? Parce que je n'en sais rien. Ah ouais. Parce que si je veux, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis tel que je suis aujourd'hui, ça ne fait aucun doute, excepté que non.
Et il faut toujours faire un choix. Il n'est pas évident,
parce que c'est vraiment un choix... jusqu'au bout du bout de la vie, en fait, sans savoir ce qui va se passer. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer dans nos vies. Oui. Mais là, c'est évidemment des risques. Et c'est des risques pour notre liberté. Oui. Parce que notre liberté, c'est eux aussi qui l'ont défendue.
Et puis, ça a mis du temps. Ils sont panthéonisés. C'est les premiers résistants. Il y a des résistants dans le Panthéon, mais c'est les premiers résistants étrangers, enfin d'origine étrangère. Et c'est vraiment tout un symbole dans un contexte politique donc actuel.
Actuel. Et c'est aussi un symbole parce que c'est les résistants communistes, engagés communistes. Ça a été une dure bataille pour le collectif qui s'est investi pour arriver à la panthéonisation. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, Nathalie Ouzoulias, qui est la sœur de Pierre Ouzoulias, sénateur, a beaucoup travaillé sur le dossier de presse. Grosso modo, c'est même elle que globalement...
Il est remarquable, ce dossier de presse, il y a l'essentiel. Vous faites appel à des spécialistes, des historiens, mais aussi les descendants de ces résistants.
Oui.
Denis Lannoy, bonjour.
Bonjour.
D'abord, vous avez beaucoup travaillé avec le collectif pour que ce ne soit pas une seule journée, comme j'ai dit, un dépôt de gerbes, une plaque, et puis après, ma foi, la vie continue. Il est bien évident que chacun est conscient de, comment dire, du, je cherche le mot du...
L'importance.
Oui, voilà. Trop facile. De l'importance de cet événement, je ne pense pas que l'on va redire toute la vie des Manoukian, mais je pense qu'il est peut-être utile de donner quelques repères chronologiques sur Missak qui a perdu la vie, qui est fusillé, la fiche rouge, on en reparlera également, et Méliné qui a survécu, qui a eu un parcours assez conséquent et qui est décédé en 1989 et qui est la biographe, la première biographe de son mari. Alors, que dire à nos auditeurs pour situer Missak Manoukian?
Alors, Missak Manoukian naît à la fin du 19e siècle, en Arménie. Il est tout jeune homme lorsqu'il y a le génocide arménien, quand la Turquie décide d'un génocide sur une population arménienne qui, à ce moment-là, comporte un peu plus d'un million d'habitants. Et il y aura 500 000 victimes, c'est-à-dire l'éradication de la moitié de la population. Donc une grande partie des survivants, des 500 000, partent en exil. C'est le cas de Missak Manoukian et de son frère, qui est plus âgé. Ils partent tous les deux. Et leur pérégrination les amène au Liban, à Beyrouth, où ils sont accueillis, là-bas, protectorat français. Ils sont accueillis dans une école religieuse. Et donc ils découvrent la langue française, ils apprennent tous les deux la langue française. Et avec les exigences de l'époque et la curiosité de Missak Manoukian, un des enseignants de littérature remarque les talents particuliers de Missak Manoukian pour la langue française, pour la littérature française. Et donc, à la fin de cet enseignement, les deux frères décident de partir en France pour travailler, pour trouver du travail. Et ils atterrissent à Marseille.
Oui, il y a une forte communauté arménienne.
Communauté arménienne encore aujourd'hui à Marseille. Et donc, pendant quelques mois, quelques années même, accueilli par des familles arméniennes, il va travailler. Il s'intéresse toujours à la littérature et donc il décide à un moment donné d'aller à Paris étudier à la Sorbonne, en auditeur libre, dans les classes consacrées en particulier à Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire, dont il tombe éperdument amoureux, mais de la poésie de...
Au sens vraiment littéraire.
Oui, ouais. Éperdument amoureux de la poésie de Charles Baudelaire. Et puis, donc, il commence à pas mal écrire à ce moment-là, mais il travaille pour gagner sa vie. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Méliné. C'est le moment du Front populaire, donc
une ambiance un peu
particulière, et Missak Manoukian fait le choix aussi de devenir un militant politique. Il adhère au Parti communiste français, qui à ce moment-là accueille les travailleurs immigrés pour créer à la fois une dimension internationale aux luttes d'émancipation et à la fois pour permettre à ces étrangers de s'intégrer à la société française. Et donc il y a une cellule du Parti communiste français à Paris où ce sont des travailleurs et des ressortissants arméniens.
Mais Missak en fait devait un peu se dissocier, mais être un peu particulier parce qu'il parlait parfaitement le français, il avait une culture littéraire, donc n'avait-il pas cette image un peu de l'intellectuel?
Ça a jamais choqué les communistes. Il y a eu des moments qu'on a appelé l'ouvriérisme, effectivement, où il y a des débats internes, mais les intellectuels, et singulièrement dans cette période de lutte contre tous les obscurantistes qui en Europe étaient en train de naître, c'est-à-dire le nazisme, le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, Franco en Espagne, et puis en France aussi, l'Action française qui commençait à prendre toute sa place, et on voyait poindre déjà le bout du nez du gouvernement de Vichy quelques années plus tard.
Oui, il n'est pas arrivé comme ça.
Non, c'est pas arrivé. Il y a tout un parcours, et effectivement, Missak Manouchian, et à ce moment-là, les communistes décident de manière internationale et européenne. Hein, je vous rappelle l'appel des intellectuels à Amsterdam Pleyel en 1933. Oui. Missak Manouchian va faire le choix de l'engagement politique.
Il aurait pu rester tranquille, mais non, au contraire, il se consacrait à la littérature. Mais c'était dans son tempérament. Et puis toujours ce sentiment de collectif, quoi, de participer. Oui, oui, oui. Mais si je vous posais la question, c'était parce que je repense à l'affiche rouge et qu'on montrait ces ouvriers, ces étrangers, toujours comme des un peu analphabètes. En plus, la photo, ils ont été torturés, ils sont mal rasés. On les fait apparaître vraiment comme des brutes.
C'était la propagande de Vichy. Hein. Mmh. Je rappelle que cette affiche qui les stigmatise en tant qu'étrangers, alors qu'ils sont en train de défendre les valeurs de la République française. Mmh. Ils défendent les idées les valeurs de la République. Valeurs qui n'avaient plus cours, puisque le régime de Vichy avait mis fin, sur les frontons des écoles, liberté, égalité, fraternité avaient disparu.
C'était travail, famille, patrie.
Absolument. Donc on était dans un changement de paradigme très important. Et donc Missak Manouchian, lui et sa femme, se sont battus pour liberté, égalité, fraternité.
Donc les étrangers, enfin d'origine étrangère, ils n'ont pas été bien sûr naturalisés.
Oui, ils n'ont pas été naturalisés, mais il n'empêche, ce sont des gens auxquels on doit rendre un absolu hommage, dans la mesure où ils ont choisi de lutter pour des valeurs émancipatrices, des valeurs universelles, et donc à ce titre... ils ont toute leur place dans le panthéon de la nation française. C'est-à-dire, on est dans les valeurs de la République. Ils ont toute leur place.
Bien sûr.
Mais pas que, tant d'autres. Mais là, c'est de l'ordre du symbole. Et je pense que c'est important et pour le Parti communiste français que je représente dans ce collectif. C'est important de rappeler ces valeurs parce qu'il y a une actualité.
Pas uniquement pour les communistes, hein. Je pense que pour toute personne qui réfléchit et qui voit la montée de l'extrême droite, qui voit les dangers et les périls. Hein. Bon, il y a eu Mayotte, remise en cause du droit du sol.
Ah ben ça va au-delà de Mayotte aujourd'hui, puisque l'extrême droite est une partie de ce qu'on nomme la droite républicaine, mais. On se demande encore si ce titre est valable ou usurpé, réclame la fin du droit du sol.
Et vous l'avez rappelé dans la conférence de presse, on est en France, mais si on est en France, c'est à 18 ans qu'on doit choisir la nationalité française. Donc on n'est pas français de droit que l'on est.
Absolument pas. Hein. Absolument.
Et c'est très très important. Alors pour en revenir à Missak Manouchian, est-ce que vous croyez que dans ses engagements, il a été aussi en Espagne, etc., est-ce que vous pensez que dès le départ, puisque Hitler c'est 33, hein, les lois antisémites c'est 38, le port de l'étoile jaune c'est plus tard, mais est-ce qu'il était conscient qu'il risquerait la mort ?
Je crois qu'à partir du moment... Il n'a pas combattu en Espagne, mais il a aidé au développement de l'aide internationale aux républicains espagnols. Les résistants, évidemment, savaient qu'ils risquaient leur vie tous les jours. C'est pour ça que des systèmes de protection étaient mis en place, c'est-à-dire qu'un résistant n'était en contact qu'avec deux résistants. Et eux-mêmes, c'est un système en étoile, eux-mêmes n'étaient en contact qu'avec deux, parce que ça a évité que des réseaux puissent tomber, parce que les tortures infligées par les bourreaux nazis et les bourreaux des milices vichistes étaient telles que la personne la plus engagée pouvait souffrir tellement que pouvait livrer malheureusement un nom ou pas. Alors, pour la petite histoire, c'est Pierre Ouzoulias qui a demandé la panthéonisation, qui est sénateur communiste, qui a demandé la panthéonisation et qui, depuis plus de 10 ans, un combat acharné pour demander la panthéonisation de Missak.
C'était pas gagné, hein.
C'était pas gagné, mais l'histoire est révélatrice. Le père de Pierre Ouzoulias était dans le réseau MOI et il était un des deux en dessous de Missak Manouchian. Mmh. Il n'a pas été arrêté. Ça veut donc dire que Missak Manouchian n'a pas parlé. Mmh. Et on sait qu'il a été torturé affreusement, atrocement, c'est sûr, avant d'être fusillé.
Mmh. Oui, mais déjà, la première photo, quand il est passé uniquement chez les Français, la police française, il est déjà pas mal, le visage déjà pas mal tuméfié. Et puis, moi, je fais le parallèle aussi avec Jean Moulin. Hein.
Avec Jean Moulin, bien sûr, bien sûr.
Bien évidemment, bien cette torture assez ignoble. Je ne sais plus comment reprendre. Attends. Oui, d'ailleurs, je réagis parce que souvent, dans beaucoup de films maintenant, bon, ça fait 70 ans maintenant, et maintenant, on fait des films où on voit les résistants. Bon, tu me fais entrer dans un réseau de résistance au café, à haute voix, etc. Ça me fait toujours bondir parce qu'on n'imagine pas tout ce degré de discrétion, ce degré de... Et moi, le film qui m'a marqué, c'est L'Armée des Ombres, où justement, on voyait très bien cette sécurité.
Oui et non, parce que quand on lit les écrits, les souvenirs des résistants, il y a eu une période d'insouciance. Oui. C'est-à-dire que je ne veux pas parler de romantisme dans ce cas-là, parce que combattre les nazis, c'est pas du romantisme.
Oui, mais on pense à ces jeunes lycéens aussi, là, il y avait ce côté un peu de
l'insouciance. C'est pour ça qu'après, il y a eu une organisation très importante. Mais le courage aussi, parce que quand on parle des lycéens, il faut quand même se souvenir que dès 1940, il y a des lycéens qui défilent dans les rues le 14 juillet en chantant la Marseillaise. Ce qui est notable, c'est un engagement de jeunes gens, hein, Missak Manouchian, et beaucoup de résistants étaient quand même jeunes.
Oui.
C'est quand même un fait notable.
Ouais. On voyait l'hommage là au Mont Valérien, je ne sais plus son prénom, mais je sais que c'est Birenbaum, Simon Birenbaum, 97 ans. Et qui les derniers survivants meurent, c'est le titre, je crois, d'ailleurs d'un livre, hein, les derniers qui ont la parole. Et je pense que pour illustrer, bien sûr, c'est la chanson La Fiche Rouge, le poème d'Aragon, hein, qu'il a écrit, je crois, en
1954.
Oui, 10 ans après.
Parce que c'est un moment où le Parti communiste décide de rendre hommage à Missak Manouchian et passe une commande à Louis Aragon d'un poème. Louis Aragon va écrire le poème à partir de la lettre que Missak Manouchian écrit à sa femme. C'est pour ça que dans le poème, qui en vérité s'appelle « Strophe pour se souvenir », et pas La Fiche Rouge, dans « Strophe pour se souvenir », Louis Aragon va emprunter des passages à Missak Manouchian, des passages qui sont dans la dernière lettre de
à sa femme,
dans lequel il lui dit « Sois heureuse, marie-toi pour avoir des enfants, parce que ce qui est important, c'est l'avenir. » C'est quand même extraordinaire de dire ça. Et autre chose fondamentale, et qui témoigne bien de ce que c'est que cet engagement de Missak Manouchian, il dit « Je meurs sans haine pour le peuple allemand. »
Il a fait la différence entre nazisme et Allemagne. Voilà.
Je meurs sans haine pour le peuple allemand. C'est d'une force inouïe. Quelques heures avant de passer dans le peloton d'exécution, d'avoir la force morale de dire ça, c'est d'une infinie puissance. Et rien que ça, rendre hommage à ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi et quelque chose d'important à défendre encore aujourd'hui, c'est que le malheur n'empêche pas la perspective de l'amélioration de la vie
et toujours lutter pour
et on voit bien aujourd'hui, c'est les conséquences là aujourd'hui, la morosité dans laquelle nous sommes, à la fois la morosité politique mais aussi les angoisses légitimes que certains d'entre nous éprouvent, et particulièrement dans la jeunesse, une espèce d'avenir limité
Oui, on ne peut plus rien faire.
On ne peut plus rien faire parce qu'on a l'impression que l'humanité est condamnée et que la planète est condamnée, etc. Et il y a encore des gens qui ont la force de dire il est possible d'inverser les choses. Misak Manouchian fait partie de ces gens-là. Et je pense que c'est important de donner à la résistance, c'est encore aujourd'hui d'avoir un regard sur la résistance par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire profondément être résistant? C'est pas être un guerrier, c'est pas prendre les armes contre quelqu'un, c'est avoir la capacité et la force morale de s'opposer à un système politique destructeur. En son temps, c'était le nazisme, le fascisme et tous ces autoritarismes. Aujourd'hui, on a malheureusement aussi, on est confronté à l'autoritarisme, on est confronté à des reculs civilisationnels extrêmement importants. Eh bien, il faut résister, il faut continuer à résister. Et la panthéonisation de Misak Manouchian, elle porte, elle a cette force. Elle a cette force, là, pour annoncer. Mais j'insiste parce que je ne suis pas certain que le message que le gouvernement actuel envoie au travers de cette panthéonisation soit en accord avec les décisions politiques prises par ce gouvernement.
Oui, c'est un peu une vitrine.
La remise en cause du droit du sol à Mayotte et puis la petite musique délétère qu'on entend sur il faudrait étendre à la métropole la remise en cause du droit du sol, c'est quand même là s'attaquer directement à la République. Et quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que la République, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième République, elle s'est constituée sur ces valeurs-là d'universalisme.
Alors on va écouter, vous avez choisi, bien sûr, la plupart des gens, je pense, connaissent Léo Ferré chantant l'affiche rouge, mais vous avez choisi Feu Chatterton pour ce côté actuel, en fait, ce côté moderne.
Oui, oui, c'était un musicien contemporain et également un grand poète contemporain. Et je crois qu'il faut... Alors, le groupe s'appelle Feu Chatterton, mais le leader de Feu Chatterton est vraiment un grand poète contemporain, publié. Et il est capable de s'emparer musicalement avec beaucoup de force et d'être en adéquation avec l'époque.
C'est ça qui est important. Vous parlez de messages, vous parlez de symboles, que toutes ces cérémonies ne s'arrêtent pas au 21 février, ne s'arrêtent pas à une gerbe, à une pause de Pâques, mais fassent vraiment école. Et c'est pour ça, et nous en reviendrons après la musique, que vous avez convié à toutes ces activités qui ont eu lieu autour du 21 février, vous avez convié les lycéens, les écoles, c'est très très important.
Ils étaient 23. Quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vie à en mourir. Vingt et trois qui criaient la France.
Alors sur Radio Alliance Plus, une émission de 28 minutes est bien sûr trop courte pour parler de Misak et Méliné Manoukian, qui ont été donc panthéonisés le 21 février, donc très récemment. Comme nous le dit Denis Lannoy, tout cela doit déboucher sur une prise de conscience, sur des réflexions, sur tous les jeunes, lutter contre tous les autoritarismes. On est dans un contexte très difficile. Et je me permettrai, Denis, de faire seule une émission sur les aspects littéraires, musicaux, cinématographiques, en passant des musiques, des extraits de bandes-annonces, hein, ça sera complémentaire. Donner une bibliographie, parce que dans votre dossier de presse, vous avez donné beaucoup de noms. Sont venus des grands spécialistes, des descendants aussi de ces résistants. On a eu à peine le temps de parler de Méliné, qui est décédé en 1989. Donc, il faut continuer, hein, je ne vais pas dire il faut continuer le combat, mais c'est presque cela. Et comment vous aimeriez conclure tout ce qui s'est passé autour de ce 21 février et cette panthéonisation ?
Eh bien, justement, qu'il n'y ait pas de conclusion.
C'est très bien ça. Ouais. Oui, qu'il n'y ait pas de conclusion, qu'on continue.
Qu'on continue à porter cet espoir qu'ont porté Méliné et Missak Manouchian. Et pas que, ils ne sont que le symbole d'une force de résistance qui existe.
Il y a le nom des 22 autres personnes.
Les 22 autres, et puis au-delà. Au-delà
lui, et puis tous les résistants.
Au-delà, on vit quand même dans une région où il y a eu beaucoup, et parmi les premiers maquis de résistants.
On n'a pas cité le nom des FTP et MOI, la main-d'œuvre immigrée, mais bon, on ne peut pas en 28 minutes, et j'espère moi aussi que cet événement va donner aux personnes la volonté de s'intéresser justement à ces parcours et de dire, je ne dis pas que chacun est capable, je crois pas, mais de se dire qu'est-ce que je fais, quoi, comment je lutte.
Oui, prendre conscience, il faut prendre conscience, c'est sûr. Prendre conscience et être vigilant par rapport à notre époque troublée. Je le redis, mais remettre en cause le droit du sol, c'est gravissime. C'est gravissime. Ça veut dire qu'on construit des murs autour de la République française, et alors que la beauté de la République, c'est de se bâtir aussi sur la présence des autres et la présence de l'étranger en nous, parce que nous avons moi je suis toujours choqué de constater que on puisse réclamer au nom d'une identité supposée qu'on puisse réclamer alors que il suffit les uns et les autres de regarder qui nous sommes réellement. Je ne connais personne qui ne vienne pas d'un ancêtre
d'ailleurs.
Je n'en connais pas.
Quand vous voyez les grands noms, une fois j'avais vu tous ceux qui... Il y avait Marie Curie en premier. Enfin, tous ceux qui sont d'origine étrangère, qui ont fait la gloire de la France.
Oui, mais c'est c'est un phénomène très lointain. Je vais finir par rapport à ça. Par exemple, dans la région de Toulouse, les noms des habitants de la région de Toulouse, c'est à forte connotation visigothe.
Oui. Donc ce sont des étrangers.
Donc des étrangers, mais des étrangers depuis très longtemps. Et donc là, je pense avant tout que la France, ce qui constitue la France, c'est aujourd'hui, c'est les valeurs républicaines. Et dès qu'on attaque les valeurs républicaines, on met notre pays en péril.
Merci Denis, et à bientôt pour d'autres émissions.
Avec plaisir.
Radio Alliance Plus recherche des bénévoles. Proposez-nous vos émissions à contact@radioallianceplus.fr.